souci, c'est qu'en réalité, ça c'est assez marrant, c'est pour ça que les frustrations elles arrivent, le passage entre une personne qui sait pas faire de traction et une traction, c'est énorme. C'est comme si tu avais envie de rajouter 50 kilos à ton développé couché, par exemple. J'exagère, hein, mais...
Bonjour à tous et bienvenue sur Level Up, le podcast de Intuitive Training, l'émission qui aborde tous les sujets liés à l'entraînement, la nutrition et la récupération. Je suis Eleanor, toujours athlétique intuition sur les réseaux. Et aujourd'hui, je suis accompagnée de mes deux acolytes et associés préférés, Thomas Tapti, ou Wild Soul Trainer sur Instagram, et Nicolas Florisson, plus connu sous le nom de Tarzan from the Town. On est absolument ravis de vous accueillir pour ce nouvel épisode, on espère qu'il vous plaira. N'hésitez pas à nous poser toutes vos questions ou à nous soumettre des idées de sujets sur Instagram, @intuitivetraining.fr, on sera vraiment ravis de pouvoir les traiter dans les prochaines semaines du podcast. Sans plus attendre, je vous laisse avec la conversation du jour. Bonne écoute! Toi, tu vas fermer ta gueule parce que tu m'énerves. Voilà.
C'est le beat.
Ouais, c'est le beat, le petit beat, mais en podcast, on n'a pas besoin du petit beat. Ça va les gars, vous êtes prêts?
Ouais,
c'est beau, Lucas.
Je vais m'en mettre dedans, mais ça va aller.
Mais t'es chaud là!
Ouais, y'a plein de trucs que je voulais dire, mais ça fuse trop, mais c'est
sur
pas
quoi, sur le sur l'autre?
Non, sur celui-là.
Sur push-up, pull-up. Ouais.
Tu veux qu'on en discute avant?
Non, vas-y.
Non?
C'est ça aussi le but du podcast. Hein.
Ouais. Vous l'aurez compris, je suis avec Thomas et Nicolas, mes deux acolytes préférés, pour ce nouvel
c'est
épisode.
C'est réciproque,
bah oui.
On s'aime. Hein, on s'aime.
On s'aime.
Oh là là, on s'aime fort.
On s'aime. Câlin.
Vas-y, un petit câlin. Vous
n'aurez pas la vidéo, mais vous avez entendu les petits tapotages du dos.
Alors aujourd'hui, de quoi on va parler, les gars?
Eh ben, on va parler de deux mouvements un peu incontournables dans le domaine du sport, de l'entraînement, des entraînements poids de corps qui sont le pull-up
donc, et le push-up.
Donc traction et pompe.
Et pompe.
Voilà.
Ouais, c'est les deux mouvements, deux des mouvements phares.
C'est vrai, pour plusieurs raisons, mais ça.
Qu'on retrouve partout.
Ouais. Parce qu'on peut les faire partout.
On peut les faire partout.
Parce que ça nous rappelle aussi un petit peu les entraînements un peu type commando. Même moi, ça me rappelle les entraînements que je voyais quand j'étais jeune. C'est à la Rocky, à la Jackie Chan, où tu les voyais enchaîner des pompes. Et c'est aussi finalement des mouvements de base pour pouvoir après passer des mouvements un peu plus sexy comme les muscle-up, les handstand push-up et plein de trucs assez cool comme les pompes explosives. Voilà quoi.
Mais c'est on va démarrer sur la première question. Les gars, mais pourquoi c'est aussi dur?
Pourquoi c'est aussi dur?
Je dis ça en tant que meuf, mais j'ai l'impression que chez les mecs, ça se débloque bien plus vite.
Même un peu plus vite, mais...
Même des mecs sédentaires, ils ont des pull-up et des push-up, alors que toi, en tant que nana, déjà d'avoir ton premier pull-up et tes premiers push-up, il faut y aller, quoi.
Alors, bon, déjà, tu veux qu'on explique la différence pourquoi nana-homme assez rapidement? Parce qu'on peut l'expliquer assez rapidement.
Ouais, clairement.
On l'explique assez rapidement. De manière générale, de toute façon, les femmes ont une force du bas du corps largement supérieure à leur force du haut du corps.
Ok.
Et c'est l'inverse chez les hommes. C'est-à-dire que les hommes ont, en termes de ratio, une force de haut du corps supérieure en termes de ratio à leur bas du corps.
Ça s'explique d'où ça?
C'est expliqué par différentes choses, par aussi la répartition des masses musculaires chez les uns et les autres. C'est expliqué par un petit peu notre évolution et comment on a été amené à faire des activités physiques un petit peu différentes, que ça soit au niveau de la chasse, que ça soit au niveau d'activités physiques qu'on retrouvait peut-être un petit peu plus... on va dire chez la femme sur peut-être plus de la marche ou autre, donc il y a plusieurs explications qui peuvent avoir lieu, mais en tout cas c'est quelque chose qui s'est avéré de manière assez générale et ça s'avère aussi même sur la capacité d'endurance que les femmes vont pouvoir avoir sur du bas du corps ou des exercices de bas du corps. Et toi qui fais des courcos, tu vois nettement ça.
Même dans les trainings, elles sont capables d'avoir un peu plus de...
Faites le petit test avec votre mec, celui qui tient le plus longtemps en chaise.
On va rigoler.
Tout ce qui est bas du corps, fessier aussi, c'est pareil.
Parce que nous, nana, on vous éclate la gueule. Clair.
Mais principalement, c'est dû c'est principalement dû aux répartitions. De masse musculaire.
Bien sûr, on parle en généralité. Il y a toujours des exceptions.
Il y a tout.
Oui, bien sûr.
Je suis la première exception. Je suis beaucoup plus forte au niveau du haut du corps que du bas du corps. Donc voilà.
Mais la répartition des masses, c'est un bon exemple. Et la répartition du masse, elle est due aussi, c'est tout bête à dire, mais même si aujourd'hui, en 2022, on est carrément dans une autre ère, mais elle est due les besoins premiers d'une femme par rapport aux besoins premiers d'un homme.
Ta petite anecdote, t'allais dire, Nico ?
Non, c'était pour revenir sur la chaise. Une fois, j'avais fait un challenge, je m'étais amusé en cours... en donnant un cours à faire un challenge, et il y avait la chaise qui était dedans, et le cours dure, c'était 45 minutes je crois, et je fais les premiers événements, premier challenge, et je finis par la chaise. Le problème c'est que, en fait, je me suis retrouvé avec deux nanas, qu'au bout de 20 minutes, 21 minutes, 22 minutes, n'avaient toujours pas décroché de la chaise. Le problème c'est que j'avais le cours d'après, tous les gens qui commençaient à rentrer, et elles étaient toujours en chaise, et elles ne voulaient pas lâcher l'affaire. Donc à la fin, j'ai donné un petit truc aux deux nanas, mais pour te dire que effectivement, les hommes avaient déjà décroché au bout de la 7e, 6e minute, et encore, c'était les plus costauds, et que les deux nanas avec qui j'étais étaient parties déjà sur 21, 22 minutes.
Ouais. Et ça, c'est dû à autre chose aussi. Alors c'est dû à cette fameuse répartition, comme on a dit, et ses faiblesses et forces de l'un et de l'autre, de l'homme et de la femme, mais c'est dû aussi aux capacités de gestion du seuil de la douleur.
Ouais.
Où les femmes sont capables,
elles sont plus résistantes aussi.
Plus résistantes.
Ça, c'est vrai.
Tu t'étais pas fait niquer toi aussi, toi?
Moi, je me suis niqué, moi. Attends, je suis pas mauvais, hein. Je me suis fait par des élèves à Le Pense Academy à l'époque où j'avais fait ce challenge-là. Et puis, au fur et à mesure, en fait, ça durait tellement longtemps qu'on a dû. C'est que des filles qui sont restées d'ailleurs. Ouais, et on a dû rajouter des poids parce que c'était trop lourd. Et au fur et à mesure, on s'est retrouvé à rajouter des 40 kilos, 50 kilos, 60 kilos et tout, juste pour que ça accélère le truc. Et j'ai notamment Marine qui avait gagné ce défi.
Marine qu'on a accueilli sur un des derniers podcasts que vous avez dû écouter.
Ouais, c'est une bonne machine.
Et c'est une bonne machine, ouais. Et elle avait tenu. Et moi, j'avais lâché. Je pense que. J'étais quand même dans les derniers, hein. Mais effectivement, quand j'ai lâché, il y a deux ou trois nanas qui sont restées.
Ouais. Ah, putain, impressionnant. Bon, revenons-en à nos moutons. Pourquoi, du coup, c'est
Et après, sur les capacités de contraction musculaire aussi, parce que j'avoue, on est capable, de manière générale, nous, on va avoir des contractions musculaires beaucoup plus puissantes et beaucoup plus fortes, alors que les femmes vont souvent avoir des contractions moins puissantes, mais plus endurantes.
Ok. Bon, ça, après, ça vaudra peut-être le coup de faire un podcast sur les différences physiologiques à l'entraînement hommes et femmes, parce que sinon, là, on va être parti pour très longtemps. Du coup, pourquoi ces deux mouvements, push-up, pull-up, traction et pompe, sont-ils finalement si difficiles?
Je te dirais d'abord parce que ils demandent, la première chose qui me vient en tête, c'est une tension musculaire qui est complète dans tout le corps. Et ça, c'est pas facile de pouvoir le développer comparé à un mouvement d'isolation ou d'autres mouvements qu'on peut retrouver sur certaines machines. Donc avant de pouvoir développer pull-up ou push-up, il y a tout un système de gainage qui doit se mettre en place. Et forcément, si à la base, avant même de faire le mouvement push-up, il n'y a pas un gainage au niveau des jambes, au niveau des abdos, au niveau du dos, forcément, tu vas te retrouver en difficulté. Okay. Donc si tu veux, c'est un système de step by step, où tu as plusieurs niveaux à acquérir pour ensuite pouvoir faire la finalité de ton push-up et ton pull-up.
Ok.
Voilà, donc ça c'est la première chose.
Alors oui, effectivement, comme tous les mouvements de poids de corps, ou les mouvements à poids de corps, là on a pris un exemple du pull-up et du push-up, mais c'est valable pour le dips, ok, et c'est valable pour d'autres mouvements à poids de corps. Mais il y a deux raisons. Donc il y a une raison effectivement de nécessité, parce qu'on est sur des mouvements polyarticulaires, mais en l'occurrence c'est la même chose pour du squat ou du push press ou qui vont être des mouvements polyarticulaires, mais au-delà du fait qu'effectivement on a besoin d'avoir un certain engagement du corps, et on verra aussi des prérequis nécessaires dans un second temps, la raison vraiment principale en réalité, c'est que ces mouvements nécessitent une surcharge progressive qui est difficile à mettre en place. Qu'est-ce que j'appelle par surcharge progressive? C'est très simple. Aujourd'hui, tu as envie de faire un développé haltère. Si jamais tu n'y arrives pas à une charge, tu vas prendre une charge plus légère. Et tu vas pouvoir progresser de manière vraiment très progressive ou très contrôlée la surcharge.
En ajoutant finalement un petit
peu. En ajoutant finalement un tout petit peu. Donc c'est le principe de surcharge progressive.
Alors qu'un pull-up et un push-up, c'est ton
secteur. Alors beaucoup plus difficile.
C'est possible.
Bien sûr.
C'est ce qu'on met en place dans notre programmation pull-up, push-up, intuitive training. Mais c'est vrai que c'est plus compliqué. Il y a plus de paramètres à prendre en compte. C'est plus difficile, il va falloir jouer sur plusieurs leviers. Et aussi, c'est qu'en réalité, ça c'est assez marrant, c'est pour ça que les frustrations elles arrivent, le passage entre une personne qui ne sait pas faire de traction et une traction, c'est énorme. C'est comme si tu avais envie de rajouter 50 kilos à ton développé couché, par exemple. J'exagère, hein, mais C'est qu'en fait, c'est vraiment, ça paraît pas énorme, parce que toi, dans ta tête, tu visualises comme un chiffre en tant que plus 1. Mais ce plus 1, il vaut pas plus 1, en fait. Ce plus 1, il vaut, et l'exemple est là, c'est comme si bah, aujourd'hui, bah, je fais 100 kilos développé couché, bah, j'ai envie d'arriver à faire 130. Non. Ça, c'est que c'est pas possible.
Ça, c'est la diff entre, par exemple, faire une rep puis une deuxième rep.
Exactement. Et maintenant, tu m'as dit, donc je t'ai parlé de la rep de 0 à 1. Mais la rep de 1 à 2, c'est tout aussi dur. C'est-à-dire que souvent, les gens, ils ont une rep, ils se disent, bon, vas-y, j'ai une rep, j'ai débloqué le truc, je vais pouvoir avoir une deuxième rep. Non, mon gars. Parce qu'en fait, ton une rep, c'est ton 1 RM. Mais ton 2 rep, c'est deux fois plus de rep. Donc en réalité, le passage, il est pareil.
Putain, alors,
il
y a un moment donné où c'est logique. C'est logique. Ouais, ouais. Mais j'y avais jamais intellectualisé le truc comme ça.
C'est vrai pour les push-ups, mais c'est moins important tout simplement parce que les push-ups, t'es quand même en décharge de gravité, t'es en décharge de poids de corps parce que t'as pas tout ton poids de corps à gérer, contrairement par exemple à un handstand push-up sur tes muscles.
Donc, du coup, deux piliers supplémentaires. Ouais,
c'est pour ça qu'en général, d'ailleurs, on a un peu plus de push-up, un peu
plus
rapidement.
Que du pull-up,
le double, voire le triple, sans problème.
Et encore, ça dépend. Là, actuellement, j'ai une athlète qui arrive à progresser plus rapidement sur ses tractions que sur ses push-ups.
Moi, quand j'ai démarré, c'est ça. Hein.
C'était le cas.
J'étais meilleur en pull-up.
Et juste pour rebondir sur ce que tu as dit, tu as l'élément aussi motivation qu'il faut prendre en compte. C'est que comme tu n'as pas de résultat qui arrive tout de suite,
c'est très important.
Il y en a beaucoup qui vont baisser les bras sur cette partie-là. Alors qu'en fait physiologiquement il va se passer des choses, c'est juste que tu vas pas pouvoir le mesurer tel un 2,5, un 10 de 2,5 ou une barre ou une charge supplémentaire que tu vas pouvoir faire. Donc ça va être très important de voir cet objectif en long terme et non pas comme un objectif à court terme.
Voilà. Et en fait il va falloir, et c'est le rôle du coach aussi, utiliser des petits testings intermédiaires sur justement peut-être des prérequis pour voir que tes prérequis ont amélioré, comme par exemple de la suspension active ou du scapular pull-up, et là tu vas pouvoir voir plus de chiffres d'amélioration que finalement du tout ou rien. Parce que finalement le pull-up c'est un peu du tout ou rien. Mm-hmm. Alors je prends l'exemple du pull-up parce qu'il est un peu plus dur que le push-up, mais sur le push-up ça peut être ça aussi, ça peut être j'en fais 5, j'arrive à peine à en faire une de plus. Mais c'est expliqué par les éléments qu'on vient de dire avant. Et donc du coup, sur ce que disait Nico, et c'est très pertinent, l'aspect motivationnel, c'est qu'il va falloir soit changer son mindset par rapport à ce qu'on a l'habitude sur de la progression en termes de nombre de répétitions ou en termes de charge sur des moments comme du développé couché, comme du développé militaire, comme du squat par exemple, parce qu'on n'a pas cette possibilité en l'occurrence, et on va voir qu'on peut quand même la mettre en place avec des systèmes d'élastique, de décharge, de surcharge, d'inclinaison, de déclinaison. Et du coup, il va falloir justement utiliser ces systèmes-là plutôt que juste le testing de est-ce que je suis capable de faire une pull-up ou est-ce que je ne suis pas capable de faire une push-up, inversement.
Ok. Oui, donc, enfin, le mouvement en lui-même, l'idée, c'est de se concentrer sur autre chose, sur des éléments de régression que tu auras mis en place lors de tes entraînements. Par exemple, dans moi, ce que j'ai pu faire quand tu me faisais bosser dessus ou dans ce que vous avez pu programmer sur nos programmes push-up et pull-up, c'est tous ces hacks d'exercices qui te permettent finalement de progresser et sur lequel toi tu peux voir une progression
sans avoir de frustration.
C'est-à-dire que par exemple à un moment donné on utilise un système d'élastique pour nous décharger du poids de corps sur les push-ups
qui nous permet d'avoir de la micro-progression, et selon comment on place l'élastique on a encore plus de micro-progression, on en reparlera.
Exactement, mais du coup l'élastique tu le places à un endroit différent sur la séance d'après qui te décharge un peu moins, ou tu utilises un plus petit élastique, et c'est là où finalement tu vois ta progression.
C'est ça. Okay.
Des angles aussi différents.
Ouais. Ok. Mais en soi, qu'est-ce qui fait que ces deux mouvements sont hyper intéressants ?
Et d'autres mouvements. Ah,
ces deux mouvements. Sont intéressants à maîtriser en fait.
Alors.
Pourquoi on se casse autant le cul à essayer de maîtriser nos pull-ups et nos pull-ups ?
Moi, j'ai quelque chose que je dis en général. Alors, pour les push-ups et les pull-ups, c'est un peu moins vrai que pour d'autres mouvements, parce que c'est quand même des mouvements un peu fondamentaux. Mais moi, j'ai tendance à dire qu'en réalité, il n'y a aucun exercice indispensable. Il y a ce qu'on appelle des actions motrices indispensables, c'est-à-dire la capacité de pousser, la capacité de tirer, mais il n'y a pas d'exercices qui sont en soi vraiment, je pense, aujourd'hui indispensables. Ça va dépendre du contexte. Maintenant, pourquoi tu as envie ? La question qu'il faut se poser, c'est est-ce que j'en ai besoin dans ma discipline ? Est-ce qu'en soi, ça va me permettre de progresser ou pas dans ma discipline ? Ça, c'est une chose. Après, la deuxième chose, c'est que je pense que quand même, de manière inhérente, c'est important d'être capable de pouvoir repousser son poids de corps, et c'est important d'être capable de pouvoir au moins tracter son poids de corps.
Ouais.
Après, passer ça, le fait de vouloir progresser absolument sur ces mouvements-là, c'est plus issu du folklore et de la représentation que l'être humain et que les gens vont se faire de ces mouvements-là. C'est-à-dire, putain, une meuf qui fait des tractions, ça kick some ass, tu vois. C'est, elle est kick-ass, elle est un peu badass. Après, tu peux très bien, parce que je te dis, ça va dépendre aussi de ton ratio poids de corps et tout, parce que comme on est sur des exercices qui finalement vont mettre plutôt en avant ta force relative, c'est-à-dire ta force par rapport à ton poids de corps, ce n'est pas des exercices qui vont être forcément être pertinents sur est-ce que je fais des tractions, je suis super fort. Bah, ça va dépendre. Si tu es très léger, effectivement, que ça n'a pas le même impact que si tu fais 120 kg ou 130 kg, tu vois.
Ouais, okay. Donc, ça ne veut pas dire que si tu arrives à faire 5 ou 10 tractions, tu es quelqu'un de très fort. Parce qu'à l'inverse, si tu prends quelqu'un qui fait, voilà, je ne sais pas, un des champions de Strongman, par exemple, tu les vois, ils font 120, 130 kilos, tu leur demandes de faire des tractions.
Certains peuvent avoir un peu de mal, tu vois. Ça va être
difficile pour eux. Par contre, ça ne l'empêche pas de soulever des deadlifts à des points incroyables. Donc, c'est relatif par rapport à ton poids de corps, mais c'est vrai que ces exercices sont assez importants parce que ça te permet d'avoir une certaine agilité. Voilà, pour pas mal d'activités, quoi.
Mais déjà, de base, quand tu m'as dit, quand tu mentionnes le fait que c'est important de pouvoir juste pousser son poids de corps, tirer son poids de corps, c'est très animal, et enfin, moi, ça me parle tout de suite.
Et si on parle de... Alors, j'aime pas trop parler de ce terme.
C'est très fonctionnel, quoi.
Fonctionnalité, parce que fonctionnel, ça veut tout dire qu'est-ce que fonctionnel, tu vois.
Non, c'est vrai.
C'est un vrai débat.
Le fonctionnel, bien sûr, le fonctionnel training, c'est un vrai débat. Ça veut rien dire. En soi, le fonctionnel training, ça veut rien dire. Mais bon, ça, après, on pourra en débattre d'ailleurs, peut-être une fois avec des invités. Ça peut être très intéressant d'en débattre avec des invités. Mais en soi, effectivement, que dans ce qu'on a de visuel sur les capacités de l'être humain, c'est-à-dire ce que moi j'appelle un peu les capacités de base, pouvoir grimper, pouvoir ramper par exemple, et bien effectivement là on va retrouver des interactions intéressantes à des push-ups et des pull-ups, c'est-à-dire notamment pour la survie, tu vois. Genre si on va loin dans le délire, c'est-à-dire qu'à un moment donné je me fais courser, j'ai besoin de grimper un mur. Putain, si j'ai pas de force de tirage, eh ben vas-y mon coco, va grimper le mur, tu vois.
Ouais, non, bien sûr. Et un, deux, trois, tout à l'heure, t'as parlé de prérequis. Pour toi, quels seraient les prérequis pour les pull-ups et pour les push-ups? Alors, qu'est-ce qu'on entend par prérequis? C'est des, entre guillemets, un minimum à avoir avant de commencer à se lancer sur l'apprentissage du coup de ces deux mouvements ou n'importe quel mouvement. Il y a des prérequis pour tout. Je dis pas de conneries.
Non, c'est ça.
D'ailleurs, on en parle dans notre programme Pull Up Push Up.
Oui, il y a des prérequis avant de...
Il y a des prérequis avant d'avoir. C'est pas qu'on pourrait pas faire des tractions et des push-ups à quelqu'un, mais c'est qu'en réalité, avant de venir chercher un programme pour augmenter ton nombre de tractions ou tout simplement passer de 0 à une traction, il y a un minima à avoir. On va l'évoquer dans un instant, ce minima. Ça veut pas dire que tu peux pas réussir sans ce minima. C'est ça qu'il faut faire important. Ça veut tout simplement dire que peut-être que t'exposer à un stress... comme des tractions et des push-ups sans avoir ce minima, c'est risquer d'augmenter le ratio blessure-récompense, si tu veux. Donc du coup, ou alors tout simplement de ne pas être capable de pouvoir exécuter même les exercices minimum de régression correctement.
Ok.
D'accord. Vas-y, Nico.
Bah là, ce qui me vient en tête quand tu parles
de prérequis,
C'est déjà tout ce qui est suspension pour les pull-ups. Voilà, c'est la base. Ça veut dire que c'est ta force à te maintenir, si tu veux, hors du sol en te tenant. C'est vraiment pas
négligé. Il y a plein de gens
qui veulent
se lancer en pull-up.
Avant même d'avoir un dos, il faut déjà avoir un grip des avant-bras qui puisse te tenir. Si tu n'as pas ça, malheureusement, tes pull-ups, tu ne les auras pas tout de suite. Tu les auras voire même pas du tout. Donc, il faut pas hésiter à redescendre. Si je puis dire, au niveau des attentes des exercices qu'on peut avoir pour ensuite mieux se propulser et arrêter d'aller à l'échec.
Okay. Donc prérequis
pull-up. C'est la première qui me vient en tête.
On démarre sur les pull-up.
On démarre sur les pull-up. Avant ça, il y a un autre prérequis en réalité et on va plus loin dans le domaine. C'est ta capacité à pouvoir comprendre la fonction d'omoplate. Donc on va très loin dans le domaine, c'est-à-dire que aujourd'hui ton omoplate elle est capable de plusieurs choses, de protraction, de traction, de se dépresser, d'abaisser. Donc on va parler d'ABC et de rétraction par exemple. Et déjà, en fait, il faudrait qu'à vide, tu sois capable de comprendre le glissement de l'omoplate. Alors, ça ne veut pas dire que tu ne peux pas faire une traction sans comprendre ton glissement de l'omoplate. Donc là, par exemple, on se met debout et on va essayer de rouler les omoplates vers l'avant et de rétracter un peu les omoplates vers l'arrière. Attention, ne pas serrer les omoplates. C'est pas serrer les omoplates.
Vous voyez pas, mais je
suis en train
de le faire.
C'est vraiment le phénomène de glissement que les omoplates vont avoir au niveau de la cage thoracique. Tu arrives très bien à le faire, c'est normal avec tout ce que tu fais aujourd'hui. Normalement, tu devrais être capable de le faire. Aujourd'hui, la plupart des personnes, notamment qui débutent des sédentaires, ne sont pas capables de faire ce travail-là, c'est-à-dire juste d'avoir le bras au-dessus de la tête, sans suspension, et de glisser son omoplate et de repousser son omoplate.
Comme si tu décomposais un petit peu ton corps. Au lieu d'avoir tout le corps qui bouge, tu essaies de visualiser.
Et c'est le scapula. Vraiment... C'est ouais, le scapula, ouais. Mais pas
sans charge. Du okay. sans charge. Exactement.
Le bras, donc, juste le bras au-dessus. Okay.
Je pousse, j'abaisse. Ça, c'est important. Pourquoi ? Pour plusieurs raisons. C'est important parce que si on veut optimiser l'utilisation, et c'est là où c'est très intéressant pour laquelle les gens ont du mal avec les pull-ups, c'est qu'en réalité, ils comptent sur la force de leurs avant-bras et de leurs biceps pour tracter parce qu'ils n'arrivent pas à stabiliser l'omoplate. Et la stabilisation de l'omoplate va permettre justement l'utilisation optimale du grand dorsal. Et en fait, c'est le grand dorsal qui, lui, va te faire finalement tracter, même si tu peux y arriver sans, okay, ou avec peu d'activation. Mmh. Et souvent, effectivement, bah, comme je ne suis pas capable de stabiliser, de fixer mes omoplates, je ne suis pas capable d'optimiser la contraction du grand dorsal. Et donc, du coup, je vais aller compenser sur d'autres mouvements, les biceps, les avant-bras qui vont tirer, etc.
Okay.
C'est clair ? Ouais. Donc, tout simplement, être capable de faire ça, donc, ça prend quelques exercices de CARS, ce qu'on appelle de Control Articulation Rotation. Donc, on va pouvoir essayer de faire comprendre ce glissement de l'omoplate, donc de sonnette interne, de sonnette externe, ça bouge vers l'extérieur, ça bouge vers l'intérieur, et de glissement vers le haut et vers le bas aussi.
Okay.
Au final, c'est plus ou moins la même chose pour le push-up, à ce niveau-là.
Ouais. Après, peut-être certains diront, ouais, mais du moment que j'arrive à faire ma traction sans mes omoplates, j'ai une ou deux, trois tractions, il y en a qui peuvent le passer.
C'est ça, sans fixer l'omoplate.
Sans fixer l'omoplate, voilà. Après, par contre, tu auras tout ce qui est problème de placement, où là, effectivement, tu vas être limité. Ou si tu veux passer ou upgrader un petit peu au niveau de tes pull-ups et commencer à mettre un peu de variabilité dans tes exercices, effectivement, bah, là, le mouvement d'omoplate, tu vas devoir le maîtriser, sinon tu seras bloqué un peu plus tard dans ta progression.
C'est comme tout, il faut des bases solides,
c'est enfin, ça.
Des fondamentaux. Parce qu'au bout d'un moment, tu peux déjà progresser sans ces bases, mais à un moment donné, tu vas te retrouver un mur, un pilier,
et tu seras obligé de redescendre. Donc, tu n'as aucun intérêt à brûler les étapes et à essayer d'aller chercher tes tractions en tirant dans les bras, tu vois.
Au pire, tu te blesses. Au mieux, tu régresses ou en tout cas, tu stagnes.
Tu stagnes.
T'as un plateau. Okay. Okay. Il faut comprendre aussi que pouvoir se tracter sans stabiliser et abaisser l'omoplate est aussi une capacité qui est intéressante. C'est-à-dire qu'il faut aussi pouvoir, et là, je parle notamment de certains sports de combat ou autres, où effectivement, il faut être capable d'être dans des positions mauvaises et d'être capable de sortir de ces positions mauvaises. Okay. Par contre, ce n'est pas quelque chose que je vais mettre en avant avec un sédentaire ou un débutant. Un débutant, j'ai plutôt justement favorisé une bonne position. Et après, on va essayer plus tard de sortir cette position. J'explique pourquoi sortir cette position. Parce que par exemple, si on prend le keeping pull-up, il faut être capable justement pour le keeping pull-up, justement de relâcher son omoplate pour utiliser l'élasticité musculaire, le réflexe métatique, on en reparlera. Mais avant ça, il faut avoir les épaules suffisamment solides, les omoplates suffisamment, les muscles en périphérie de l'omoplate et les épaules suffisamment solides pour pouvoir avoir cette capacité-là. Donc ça se fait dans un temps, puis dans un deuxième temps, on va apprendre à relâcher.
Autre exemple, ça peut être les monkey bars, ceux qui font des Spartan Race, ceux qui font des suspensions où tu passes d'un bras à un autre. Ouais. Tu vois, par exemple, si t'as pas cette force au niveau de l'omoplate, c'est l'épaule qui va prendre. Et là, par contre, tu peux te faire mal au niveau des épaules.
Okay.
Donc, c'est pour ça aussi que dans certaines courses comme ça, tu peux te retrouver blessé. C'est que le dos n'est pas forcément assez recruté en fait pour ce genre d'activité. Okay. Donc, tu vois. Après, ça vient pour pas mal de fun aussi. Hein.
Ok. Pour pas passer trop de temps non plus sur les prérequis, qu'est-ce qu'il y a d'autre ?
Donc, les prérequis que j'ai évoqués au niveau de la compréhension de l'omoplate, elles sont valables aussi pour les push-ups. Push-up. Tout simplement, pourquoi ? Parce que le push-up, il faut comprendre un truc, et c'est le problème de beaucoup de personnes, c'est qu'il faut créer de la stabilité au niveau de son omoplate pour pouvoir avoir une force de poussée optimale. Je m'explique, si à un moment donné, je pousse et que je n'ai pas l'omoplate qui fait son rôle de fixation et de stabilisation, bah, c'est comme si j'essaye de pousser du sable. Quand je pousse du sable, bah, je me mets dans quelque chose de mou, c'est dur de pousser du sable. Okay, c'est dur de pousser du sable. J'étais en train de me rapprocher du micro. Donc du coup, il faut s'imaginer que là, moi, à un moment donné, je suis en train de pousser le sol, mais mes omoplates, c'est du sable, j'exagère. Okay, bah, du coup, la transmission de force, ça ne se fait pas. Mmh. Et du coup, c'est ce qui se passe souvent, c'est assez marrant, c'est qu'on va avoir les gens qui vont cambrer, du coup, on va avoir les omoplates qui vont se resserrer et qui vont se décoller.
Okay.
Okay, c'est pas optimal.
Okay.
Donc déjà, dans un premier temps, comprendre cette capacité d'omoplate à pouvoir s'abaisser, stabiliser. Donc ce qu'on va pouvoir faire, ça va être des exercices qu'on peut retrouver pour les pull-ups sans charge ou sans suspension, c'est-à-dire tout simplement... Bah, les glissements d'omoplate, les abaissements, comme je t'ai dit. Et après, on va utiliser effectivement, et en suspension, le scapular pull-up, parce qu'il faut être capable maintenant d'abaisser et de dépresser son omoplate en suspension.
Mmh.
Et peut-être que ça prend de délester son corps au départ, c'est-à-dire de mettre ses pieds sur une chaise, ce que tu disais tout à l'heure, pour pouvoir justement cumuler suffisamment de volume et pas se dire, bon, bah, en fait, j'arrive à me suspendre, aujourd'hui, je me suspends qu'une seconde. Bah, ça sert à rien si tu te suspends qu'une ou deux secondes. En fait, il faut être capable de suspendre 10, 15, 20 secondes pour qu'il y ait un effet, en fait. Mmh. Mais si je ne suis pas capable de le faire avec mon poids de corps, je vais délester mon poids de corps. toujours on en revient au même principe de
régression
et surtout non de progression de charge et de micro-progression.
Et ça, c'est assez important là-dessus, c'est que tu en as beaucoup, on va parler, enfin, une petite parenthèse sur les régimes de contraction, je pense qu'on y reviendra un peu plus tard sur la progression, mais beaucoup de gens utilisent tout de suite le concentrique, le régime concentrique, ça veut dire te tirer si tu veux.
Alors que c'est pas l'idéal en réalité.
Alors que c'est pas l'idéal au départ en fait. Tu as d'autres régimes qu'il faudrait.
Prioriser dans un premier temps.
Exactement.
On va en parler ensuite dans les autres questions. J'aimerais qu'on finisse sur les prérequis.
Donc du coup, ça va monter vers le scapular pull-up et le scapular push-up. On va retrouver là. Ouais. Ok, cette capacité à pouvoir cette fois-ci, soit en suspension, soit en poussée, stimuler, bouger les omoplates, activer les omoplates. J'en parle parce que peut-être les gens ne connaissent pas le terme, c'est scapular push-up et pull-up.
Un autre aussi important, c'est tout ce qui est gainage, pelvic tilt, le mouvement de bassin.
Parce que le gainage, c'est plus important sur le push-up en réalité, ce mouvement de bassin,
bien sûr,
gainage.
Que sur le pull-up.
Cette capacité d'avoir le corps qui est indéformable. Moi j'appelle ça indéformable, c'est-à-dire qu'on essaye d'avoir suffisamment de maintien de corps et d'être indéformable face à la poussée pour que la poussée soit efficace. D'accord ? Et sur le push-up, on parle souvent sur le pull-up aussi du corps. En réalité, le placement du corps est moins important sur le pull-up. Okay, on a besoin de moins d'engagement. Par contre, le fait d'être gainé et d'avoir le corps qui est maintenu, ça va permettre d'avoir un tirage beaucoup plus vertical et donc du coup finalement d'un peu moins se fatiguer et d'être plus optimal sur son tirage.
Ok.
Et après nous, dans nos prérequis sur le programme, nous on a rajouté d'autres choses parce qu'on utilise ces prérequis de manière un petit peu plus poussée pour se dire aux gens, ça sert à rien de venir chercher notre programme. Si vous n'avez pas ces prérequis ou ce minimum de prérequis avec de la suspension active, je ne sais pas si tu te rappelles, on avait la suspension active, on avait du gainage, on avait quoi d'autre ? On avait un petit peu de tirage aussi délesté avec un élastique ou autre. Et l'idée, en fait, c'était de se dire, ok, taffe déjà un petit peu sur ces toutes petites bases-là, ce n'est pas énorme. Et quand tu sais faire ça, tu vas voir que ton programme va être optimal parce que...
Il correspond à ton niveau. Quoi.
Il correspond, en fait, à le minimum nécessaire pour pouvoir progresser correctement.
Ok. À vos yeux, quelles sont les principales erreurs lors d'apprentissage de ces deux mouvements ?
On peut commencer sur le push-up. Push-up, c'est vouloir essayer de faire, j'en vois beaucoup qui font 10 à 15 push-up. Le problème, c'est que l'amplitude, par exemple, de travail n'est pas optimisée. Ça veut dire qu'on part sur des demi-push-up, voire même sur des quarts de push-up pour certaines personnes. Donc, faut pas hésiter à se lester un petit peu,
se délester, pour prioriser l'amplitude de mouvement.
Incliner également, je sais pas, au lieu de commencer à les faire au sol, commencer à les faire sur les genoux, ou commencer à se mettre sur un banc pour doucement en fait enlever un petit peu de son poids de corps et retravailler une belle amplitude de travail.
On aura beaucoup plus de travail. Privilégier l'amplitude au volume, entre guillemets, au nombre
de
volume
rapides. Ou à la charge tout de suite. Okay. Il y en a beaucoup qui cherchent tout de suite alors que l'amplitude de travail a d'excellents effets et une meilleure progression par la suite. Okay. Donc ça, ce serait une des premières choses. On revient encore sur le gainage avec le mouvement de bassin, mais essayer d'être sur une forme le plus stable possible. Sur les pull-ups, qu'est-ce que j'ai en tête là qui me vient ? Les erreurs, question d'amplitude qui reviennent toujours à la même chose. Hein, c'est vouloir caler une pull-up alors qu'on n'arrive pas à descendre jusqu'en bas et monter jusqu'à...
Ça me rappelle un client qui est venu me voir à l'époque.
Fais une pause. Pardon, c'est la bouffe qui arrivait. C'est les sushis qui arrivent. Donc tu parlais d'un client.
Ouais, j'avais une anecdote. Ça m'a fait un client que j'ai eu l'année dernière et qui me dit Tom, moi je fais 10 pull-ups. Je dis vas-y, je veux voir. Moi je savais, franchement. Alors c'est pas bien parce que ça veut dire que je juge la couverture du bouquin avant d'avoir lu. mais en réalité, on fait tous un peu ça. J'étais persuadé que c'était impossible. Alors après, du coup, je me disais qu'on n'avait pas le même standard pour les pull-ups. Alors après, on en reparlera, mais dans certains sports, ça peut être compréhensible de faire des pull-ups un peu plus. Je te disais, notamment en lutte, en MMA ou dans d'autres sports,
plus court,
réduite et tout. Mais il faut être capable, en tout cas, en l'occurrence,
de faire. Mais vas-y, raconte ton anecdote.
Mais je reviens à mon anecdote. Et il me dit, ok. Et donc, du coup, il se met sur la barre en suspension. Et je dis, vas-y, c'est parti. On était sur les phases de test et tout, même si en général, je ne fais pas trop ce genre de test au départ. Mais voilà, le mec, il est un gros ego et tout. Et il commence et tout. Et il fait ses pull-ups et moi, je fais 0, 0, 0, toujours 0, 0, 0. Et là, à un moment donné, il fait, mais attends, Tom, c'est pas possible. Je dis, mais mon gars, tu me fais ça.
On voit pas, mais en fait, il fait
de la micro-amplitude. C'est-à-dire qu'il se mettait en haut, il descendait, il remontait il se mettait en haut, il descendait, il remontait. Et donc, du coup, à un moment donné, je dis, vas-y, viens, on essaie d'en faire une complète. Et là, il en fait une complète, il dit, ah ouais, c'est dur. Je dis, ouais, c'est dur. Et du coup, en fait, t'en fais une. Et maintenant, on va essayer d'en faire 10 comme ça. Non, c'est bâtard. Hein. Là, je l'ai fait avec un petit peu plus de tact, un petit peu plus de bienveillance.
T'avais mis un paquet dedans.
J'avais mis un paquet dedans. Mais c'est pour expliquer qu'effectivement, à un moment donné, soit les gens sont trop abrupts dans leur progression, c'est-à-dire d'essayer d'aller chercher les reps, alors qu'une rep ne veut pas dire grand-chose. La façon dont on exécute la rep et les standards qu'on va mettre sur cette rep-là, même s'ils peuvent être différents en fonction des activités et en fonction du contexte, c'est ça qui va être important. Donc c'est pour ça que nous, quand on va juger les pull-ups, on va juger les deux choses. C'est-à-dire qu'on va juger effectivement le nombre que tu es capable de faire et on va imposer peut-être un tempo aux personnes pour être sûr que la pull-up soit effectuée du mieux possible.
Du mieux possible, okay, ouais.
Et que ça soit quelque chose de reproductible aussi et de mesurable surtout. Donc ça, c'est important. Pour en revenir aux éléments des pull-ups et pour continuer sur ce que disait Nico, que ce soit pull-up et push-up et les erreurs qu'on peut faire, parce que là, il nous a donné un peu deux erreurs en fonction du pull-up et du push-up, c'est très bien. Mais en réalité, il y a une erreur très commune, c'est soit de trop progresser, soit de trop régresser. C'est-à-dire que, j'exemple, mais par exemple, des fois, il y a des personnes qui n'arrivent pas à faire des push-up et ils disent, bah, c'est pas grave, j'en fais sur les genoux. Ok, c'est de la merde. Je suis assez vindicatif là-dessus. En fait, ça enlève complètement la composante essentielle du push-up, qui est le corps, ok, et qui est aussi le degré de difficulté.
Mais t'aimes pas les push-ups sur les genoux.
C'est sûr, ça sert à rien. Enfin, je vais pas te mentir. C'est, je veux dire, si ton but c'est de faire une push-up,
il y a du Nico qui. Alors, est... Ah, il va avoir.
Bah, c'est bien, c'est bien.
En fait, je le rejoins sur son idée.
Il va avoir un petit débat dans la team.
Je le rejoins sur son idée, mais c'est vrai que pour avoir côtoyé. Alors, c'est un peu différent parce que là, il doit pouvoir peut-être parler de.
Imagine pas ce que je veux dire,
c'est que moi qui fais quelques cours en groupe, en fait, le knee push-up va pouvoir me permettre d'intégrer certaines personnes dans l'équipe et ne pas leur faire des exercices qui sont complètement différents. En fait, ça va me permettre de pouvoir les intégrer dans un exercice push-up et le rapprocher au maximum de ce que peuvent faire certaines autres personnes du même groupe.
Okay. En fait, toi, tu es en train de parler du fait, et ça, je peux l'entendre et le concevoir, que le fait d'utiliser le kneeling push-up dans un cours de groupe et un cours de classe peut te permettre de te faciliter le travail sur ton régression-progression plutôt que de sortir du matériel, plutôt que de machin. Exactement. Ça, je l'entends. Là, l'idée, c'est de dire qu'est-ce qui est optimal et qu'est-ce qui est mieux. Okay. Et dans ce qui est optimal et ce qui est mieux, je pense que tu me rejoindras. Le but, c'est pas de faire changer d'avis. Et après, effectivement, j'ai dit à Hélé la dernière fois, c'est assez marrant, qu'on a tendance à être souvent gris chez Intuitive Training, c'est-à-dire à être nuancé dans nos propos. Et je trouve ça aussi cool d'être nuancé. Mais moi, en fait, j'ai décidé, là, ces dernières semaines, d'être un peu plus blanc ou noir. C'est ce que je veux dire. Non, mais c'est pas grave, je me suis dit, bon, on va tester, on va voir. Et pourquoi d'être alors blanc ou noir avec quelques nuances de gris.
Alors mais... pourquoi t'as pas les push-up? Les push-ups.
Je vais m'expliquer pourquoi j'appelle les push-ups. Parce que ça enlève pour moi un principe de base. C'est que déjà, en fait.
T'étais en train de l'expliquer, ouais. ça a arrêté.
Ouais. Ne serait-ce qu'au niveau biomécanique, en fait, ça n'a rien à voir. C'est-à-dire qu'il faut vraiment comprendre. C'est beaucoup plus intéressant d'incliner le corps en entier, dans son entièreté, plutôt que de réduire à ce point-là la demande. D'accord ? Ça, c'est la première chose. Et la deuxième chose, c'est que tu verras qu'en fait, c'est beaucoup plus facile de mal se placer sur un knee push-up. Et souvent, les gens, en fait, du coup, on en revient au nombre de répétitions. C'est qu'ils vont favoriser un nombre de répétitions parce qu'ils sont tellement délestés que du coup, en fait, il va y avoir des compensations musculaires et il va y avoir des mauvaises exécutions. Donc ça, c'est la première chose. Et la deuxième chose, c'est que je suis peut-être d'accord sur un kneeling push-up, mais à partir du moment où il soit extrêmement bien exécuté, c'est-à-dire à partir du moment où l'engagement du corps est présent et à partir du moment où l'angle du corps ne bouge pas du tout, ce qui est rarement le cas. C'est-à-dire que souvent, justement, du fait de poser les genoux au sol, on va... de se retrouver un peu plié avec les fesses vers le haut.
Ou les hanches qui descendent pas
à l'inverse. C'est-à-dire qu'on va venir descendre les pecs et pas les hanches dans son entièreté. Et donc, du coup, on va complètement dénaturer le mouvement. Pour moi, c'est complètement dénaturer le mouvement pour les différents éléments que je viens d'expliquer.
Okay.
Et il y a des meilleures solutions. L'idée, c'est pas de se dire est-ce que c'est bien, est-ce que c'est pas bien, même si c'est un peu ce que je viens de faire, mais c'est plutôt de se dire quelle est la meilleure solution.
Okay. Et il y a des meilleures solutions.
Nous, par exemple, tu vois, chez Intuitive, on utilise, et d'ailleurs, on n'est pas les seuls à l'utiliser, parce qu'on prend nos inspirations de plein d'endroits et aussi de notre vécu, et notamment moi, de ce que j'ai pu faire en gym et ce qu'on a pu m'apprendre en gym. On va utiliser justement le rack pour utiliser le principe de micro-progression. Pourquoi ? Parce que le problème du kneeling push-up, au-delà du fait que je ne suis pas pour, c'est tout simplement, c'est après tu passes à quoi ? Parce qu'en fait, tu as tellement régressé le mouvement, c'est quoi le next step ? Et aujourd'hui, tu peux être capable de faire 30 kneeling push-up que ça ne te rapproche pas beaucoup d'une ou deux push-up complètes. Je ne sais pas ce que je veux dire.
Alors, quand tu disais utiliser le rack, en gros, il met un élastique sur un rack. Et...
Alors, non. Ça, c'est une autre solution. C'est que nous, on va utiliser le principe d'inclinaison et d'incliner le corps au fur et à mesure. C'est-à-dire qu'on va utiliser Okay. Un rack carrément, on va utiliser une
avec
barre.
Une barre. Une barre. Okay.
Et on va chaque semaine peut-être, ou au fur et à mesure de ce qu'on recherche en termes d'intensité et de nombre de reps, tout simplement baisser d'un cran la barre, okay, pour se retrouver finalement au sol. Mm. Donc le corps va se retrouver décliné pour arriver jusqu'au sol. Pourquoi la barre est intéressante, ça on pourra en reparler, c'est que la barre en fait permet, de par le grip qu'on va utiliser, de créer ce qu'on appelle un torque, c'est-à-dire de plier la barre, et le fait de créer un torque et de plier la barre va créer un système externe sur l'activation des omoplates,
okay,
qui est non négligeable sur les push-ups.
Okay. D'être assez précis dans la progression et aussi.
Exactement comme tu dis, d'être assez précis.
Il y a d'autres erreurs qu'on n'a pas mentionnées ou pas?
On a sûrement oublié.
L'idée, c'est de couvrir aussi le spectre, parce qu'on va arriver à des choses...
Parce que là, du coup, tu commençais à passer sur mon autre question, et c'est très bien, ça fait la transition. Comment, du coup, débloquer les premières reps, Donc là, tu as parlé du système du rack sur les push-ups. Mm-hmm. Vous pouvez continuer.
Moi, j'ai envie de revenir sur les régimes de contraction, sur cette partie-là.
Que ce soit en push-up ou en pull-up.
En push-up ou en pull-up, il en existe trois là en question, le concentrique, l'isométrique et l'excentrique.
Je vous laisse regarder sur Google, hein, si vous connaissez.
Mais en tout cas, ce qu'on peut voir, c'est que beaucoup de personnes se concentrent sur le concentrique, donc aller chercher son objectif, soit de descendre jusqu'au sol et remonter pour les push-ups, soit de commencer en bas et passer la tête au-dessus de la barre pour les pull-ups. Mais au-delà de ça, il y a tout ce qui est maintien du poids de corps, contre la gravité, essayer de se tenir en suspension au niveau de sa barre, qui va te permettre, si tu veux, de prendre conscience un petit peu de ce qui se passe au niveau musculaire déjà, et de retravailler tes placements. Donc nous, on utilise beaucoup deux méthodes, l'excentrique et l'isométrique. Je pense que tu as dû passer par là aussi.
J'en ai encore,
méthode
always back to basic.
En fait, ils sont un peu incontournables, et j'ai envie de te dire, peu importe le niveau, même si aujourd'hui tu as 10 pull-up, un petit retour sur l'isométrique ou sur l'excentrique, ça permet de garder sa force et de revoir ses placements.
Ça n'a jamais arrêté.
Ça remet l'église au centre du village.
Qu'est-ce qu'il y a ?
Ça remet l'église au centre du village.
Exactement. Mais en tout cas, ça, c'est deux choses pour moi qui sont indispensables et qui te permettent d'avoir une belle progression si c'est bien placé dans ta programmation.
Ok.
Voilà.
Alors, il y a deux choses qui vont être importantes, si on peut un peu séparer. C'est tout simplement ma capacité à pouvoir gagner de la force, ok, mais ma capacité aussi, et c'est ce qu'on fait sur du travail un petit peu plus délesté, à pouvoir augmenter ma masse musculaire, parce qu'on sait que voilà, augmenter ma force est strictement égal ou plus ou moins à des facteurs nerveux. Je vous invite d'ailleurs à revoir le podcast sur qu'est-ce que la force,
ouais.
Ok, et augmenter mon hypertrophie de manière fonctionnelle, ce qu'on appelle l'hypertrophie fonctionnelle, je vous invite aussi, on en parle dans ce podcast-là, va me permettre en fait de créer suffisamment de masse musculaire qui, au-delà de m'aider dans mon principe de force, puisque ça va intervenir aussi dans le principe de force, mais ça va me permettre aussi de stabiliser tout l'ensemble du corps, que ce soit au niveau scapulaire, des épaules, des omoplates et tout, et venir rajouter un petit peu de masse musculaire pour renforcer, parce que les gens utilisent plutôt le terme renforcer souvent que d'hypertrophie,
ouais.
Ok, mais appelons un chat, pour venir vraiment gagner en masse musculaire. Et pour ça, du coup, il va falloir jouer sur deux principes différents, c'est-à-dire qu'on va avoir des exercices suffisamment délestés qui vont se rapprocher des mouvements de push-up et de pull-up. Okay, donc ça peut être des mouvements de push-up et de pull-up complètement assistés, avec élastique ou avec d'autres phénomènes. On va pouvoir cumuler un certain nombre de reps, suffisamment de reps pour pouvoir créer d'hypertrophie. Donc ça va être une chose qu'on va faire. Et en parallèle ou dans le deuxième temps, parce qu'on peut d'abord commencer par l'accumulation. Donc l'accumulation, ça va être d'augmenter sa masse musculaire, d'utiliser plutôt plus de reps avec moins de charge ou moins de difficulté. Et dans un second temps, dans la programmation, on va pouvoir utiliser plutôt des techniques où on va jouer sur plutôt le fait de faire de l'intensification, c'est-à-dire, alors pas des méthodes d'intensification, okay, mais des phases d'intensification en termes de programmation, où cette fois-ci, on va plutôt jouer sur la force, et du coup, on va pouvoir utiliser de l'isométrie, notamment de l'isométrie max, on va pouvoir utiliser de l'excentrique, on va pouvoir utiliser tout ce type de méthodes, on va pouvoir utiliser aussi du cluster, du rest pose, okay, d'autres méthodes qui vont m'aider à pousser un petit peu plus mon seuil.
Okay.
Donc, c'est un petit peu les deux choses sur lesquelles on va jouer. À l'échelle d'une semaine, on peut jouer sur ces deux principes avec une séance plutôt dédiée à un principe et une deuxième séance plutôt dédiée à l'autre principe. Ou alors, on peut les intervertir à l'échelle d'une semaine sur deux, ou alors carrément de cycles de 4 ou 5 semaines, par exemple.
Okay.
Et ça, c'est des méthodologies qu'on entend souvent lorsqu'on a un certain niveau, cluster, rest pose. Mais c'est quand même important de souligner que ça peut être complètement valable pour un débutant. si c'est bien dosé et si
si c'est bien fait, parce que ça
et si c'est bien fait, faut pas, tu vois, voilà, ça reste il faut, c'est pas forcément des méthodologies qui sont réservées aux élites et ceux qui ont déjà de la beaucoup de force, tu vois, je veux dire, quelqu'un d'intermédiaire ou débutant peut très bien utiliser ces méthodes si l'élastique qu'on lui donne est suffisamment en tout cas si ça lui correspond, quoi, tu vois.
C'est, ce que tu dis, c'est super pertinent, parce qu'en fait ces méthodologies donc type cluster, expose ou les différentes méthodes qu'on a évoquées, c'est des méthodologies que je n'utiliserai pas forcément avec des mouvements type squat, deadlift ou développé couché avec des débutants, parce qu'il y a la capacité de pouvoir micro-progresser la charge, tu vois ce que je veux dire. Et donc du coup, bah, autant utiliser des méthodologies classiques. Alors que par contre, avec ces mouvements de poids de corps, où je n'ai pas forcément cette capacité de micro-progression, malgré le fait qu'on ait parlé de l'élastique, du système de harnais, on pourra revenir là-dessus aussi plus tard, de toute façon on avait des vidéos qu'on a fait là-dessus, où on va pouvoir aussi micro-progresser, et ben sur du travail de force, spécifique à la traction et à la push-up, quand je ne suis pas encore capable de faire une traction ou une push-up, ou quand je suis capable de faire qu'une ou deux tractions et push-up, et ben ces méthodes-là, d'excentrique, d'isométrique, ou même de cluster, etc., etc., vont pouvoir avoir leur pertinence plutôt dans mon âge d'entraînement que ça n'aurait si je l'utilisais pour du squat ou du deadlift ou autre chose.
Ok.
Je ne sais pas si c'est clair.
Ouais, pour moi ça l'est plutôt.
Voilà pour les progressions en tout cas, avec ça déjà est
ouais, pas et, mal, hein. Et du coup, une fois que tu as commencé à débloquer tes premières reps, parce que souvent tu en débloques une, enfin,
sur celle-ci la fait très plaisir d'ailleurs.
Elle fait très plaisir.
C'est-à-dire que quand on en a certaines là, ou certains qui arrivent à faire leur première pull-up là, c'est une vraie victoire, parce que généralement ça fait déjà plusieurs mois qu'on est dessus, donc c'est un objectif à long terme qui commence à arriver, et là la motivation est reboostée déjà.
Ouais. Ah ouais. Mais alors, ouais. Après, quand pour te taper, pour commencer à en enchaîner quelques-unes, souvent tu te recasses les dents.
Ouais, il y a une certaine endurance musculaire à avoir, et puis bah, pareil, hein, on repart encore sur certaines basiques comme on l'a dit tout à l'heure, hein, isométrique, excentrique, et puis là petit à petit on peut commencer à venir se lester et faire certaines méthodologies
de force. À partir de quel moment tu commences à lester ?
Moi, honnêtement, j'attendrai. Pour moi, ça n'a pas d'intérêt de se lester lorsque je n'ai pas minimum 7 ou 8 reps.
Ouais, j'allais dire 5-6, ouais, tu vois.
Ouais, ouais. Mais, ouais. Alors après, il y en a qui le font, tu peux le faire, mais en réalité, tu ferais mieux d'utiliser des répétitions contrôlées, du tempo, ouais, de l'excentrique, de l'isométrique, du cluster par exemple, c'est-à-dire que je suis capable de faire 4-5 pull-ups, et bien à ce moment-là, je vais faire plusieurs mini-clusters de 3 pull-ups, donc je vais faire 3, plus 3, plus 3, par exemple, avec de la pause entre. Donc, c'est un peu plus pertinent. Je dis pas que c'est pas bien de se lester, mais l'autre problème avec se lester, c'est que comme je rajoute une contrainte de charge externe sur un mouvement qui est déjà assez contraignant, j'ai un risque de blessure qui peut arriver, tout simplement. Pourquoi ? Parce que peut-être que l'hypertrophie des tissus conjonctifs et l'hypertrophie de tous les phénomènes de protection qu'on va avoir autour de l'articulation, qu'on va avoir autour des différentes phases périphériques autour du muscle, eh ben, ne sont pas encore assez ancrées pour pouvoir commencer à charger en fait. Mmh. Et je risque sur du moyen long terme peut-être de soit d'avoir des blessures, donc là je parle vraiment de l'extrême, soit d'avoir un plateau plus rapide, alors que j'aurais mieux fait de me délester un petit peu et de continuer à faire du volume et continuer à faire un petit peu de rep. Aujourd'hui, même des personnes qui sont capables de faire 15 reps, okay, ou 20 reps, peuvent bénéficier justement d'un travail délesté à l'élastique et de cumuler beaucoup, beaucoup de reps. Okay. Ça peut être intéressant au niveau justement de la vasoconstriction, vasodilatation et de tout ce qui est les phénomènes d'hypertrophie périphérique, notamment des tissus conjonctifs, comme je
le
disais.
C'est important de le souligner parce que c'est très dur psychologiquement quand tu es capable, toi, quand tu mets des tractions délestées, vraiment, je te hais.
Tu me hais.
Ouais. Parce que ouais, genre...
Que tu dis, mais pourquoi en fait, ouais. Alors que j'ai déjà fait... Maintenant, tu comprends pourquoi. Mais je te l'avais expliqué un petit peu.
Oui, mais en fait, il y a aussi un phénomène d'ego, tu vois. Bien, t'es là, tu sais que tu peux envoyer tes 10 tractions et tu reprends ton élastique et t'es là... Mmh, t'aimes, ouais, pas, tu vois. Ouais, franchement, t'aimes pas.
Tu parlais d'erreur. Une des premières erreurs, c'est son ego.
Voilà.
C'est-à-dire qu'aujourd'hui, être capable de revenir...
Il me pointe du doigt.
Dans l'huile, bon.
T'inquiète pas, on en a tous. Être capable de revenir aux fondations et aux bases... et répéter, parce qu'à un moment donné, le but, c'est, il n'y a pas de secret, là, on vous donne des indications, on vous donne des choses, mais il y a un moment donné, on ne va pas se mentir. Et un autre truc qui est très important et qui est une erreur aussi, qui peut des fois être, c'est que les pull-up et les push-up, en réalité, c'est des mouvements qui vont extrêmement bien répondre à la stimulation en termes de fréquence, c'est-à-dire la haute fréquence de stimulation. Donc, plutôt que d'avoir un gros volume sur une séance, ouais, okay, d'essayer d'avoir une stimulation et une répétition du mouvement, ouais, en fait. C'est-à-dire de prendre ton volume que tu vas avoir, donc tout le monde dirait que tu vas avoir, et essayer de le distiller à l'échelle d'une semaine. Okay, c'est top au niveau de l'apprentissage neuromusculaire, ça permet aussi de lisser le schéma neuromusculaire, ça permet de minimiser aussi le stress et l'impact, okay, que peuvent avoir trop de volume à un moment donné, ou trop d'intensité à un moment donné. Mm-hmm. Et c'est des exercices qui répondent bien, notamment les push-ups, tu vois, le push-up every day ou le pull-up every day. Le squat aussi peut très bien marcher avec ça. Mais en tout cas, sur le push-up et les pull-ups, je sais que ça marche bien. Ça, c'est une première chose. Une deuxième chose qui est pour moi une erreur qu'on va avoir, et ça permet de répondre aussi à la question. C'était quoi la question déjà? Je suis enflammé tout seul.
Il parle tellement vite, je l'ai calé un truc, j'ai essayé de voir. Tu vois, en fait, je scrute ses lèvres et puis je me dis, il y a un moment, il va y avoir un petit respose. Et en fait, il n'y avait pas de respose. Il n'y avait pas de respose dans sa
tête. Non, je suis parti en phase totale.
Mais les gars, mais en plus, je vois le compteur. Là, je vois, on est à 44 minutes.
Mais non, sur les poulets,
je suis là en mode, mais waouh! Mais qui va écouter ça, quoi?
Mais si, c'est super intéressant.
Mais oui, c'est trop intéressant. Mais genre, tu débites fort. En plus, tu parles vite là.
Tu parles super vite. J'essaie.
Parce que je vais donner du contenu. Et là, j'ai le chrono qui tourne.
Mais c'était juste.
Il y a les sushis qui attendent, enfin, deuxième podcast.
À la prog qu'on avait fait, c'est que justement, on avait programmé des séances qui étaient assez courtes, de 40 minutes, mais qu'on répétait plusieurs fois dans la semaine. Voilà, d'où pourquoi on l'a programmé comme ça, et c'est une de nos raisons aussi
pour lesquelles on est comme ça. Vous avez compris, on fait du merchandising. Case notre prog.
Non, alors c'est pas du merchandising, c'est du placement de produit.
Tu vois, bah, okay. Il faut l'abonner à la prog, c'est du placement de produit.
Ouais, okay. Enfin,
merchandising, c'est quoi du coup?
Merchandising, c'est les pulls que tu veux qu'on fasse Intuitive Training.
Ah ouais, ok, ouais. Moi, on fait des pulls aussi Intuitive
Training. Enfin, bientôt, ils veulent qu'on vende les pulls que j'ai fait pour eux.
Donc la question, tu voulais la question ouais, à la base.
Putain, mais à la base, la question, c'était une fois qu'on a débloqué ses premières reps, quelle stratégie d'entraînement
c'est
adopter
tout,
mais
non, je pense que là c'est parti là.
Et toi c'est quoi tu voulais dire?
Ah moi ça y est c'est dit.
Ah c'est dit. Okay, alors répète la question parce que là, je suis en train de partir dans la
semaine. Je dis une fois que les premières reps sont débloquées, quelle stratégie d'entraînement adopter? On était parti sur ça à la base.
Ok d'accord. Alors non mais c'est très très bien. Donc du coup il y a deux choses. Première chose, pas hésiter à recréer du volume avec des exercices de régression, c'est-à-dire continuer à utiliser mes exercices de régression,
okay.
Donc mes iso, mes excentriques ou mes mouvements délestés, ouais. Donc surtout ça c'est très important. Deuxième chose, ne pas hésiter en fait à arrêter un petit peu pendant un moment les exercices qui étaient très demandés en termes de force, c'est-à-dire peut-être les tractions lestées ou les exercices type aller à l'échec. Donc ça, il faut éviter. Donc je vois souvent des personnes, une fois qu'elles sont capables de faire 2-3 tractions. Alors, c'est des méthodes qui existent. Il y a des programmes qui, justement, t'amènent à te pousser un peu à l'échec et à augmenter d'une traction, qui marchent assez bien. Je ne suis pas fan de ces programmes-là pour plusieurs raisons.
Faut pas le pousser trop longtemps, quoi.
Trop longtemps. Ça peut être efficace, mais moi, je suis plus fan de l'efficience que de l'efficacité. Pourquoi? À un moment donné, quand tu penses trop souvent à l'échec, et ça veut dire que tu vas arriver à avoir des reps qui sont des reps que j'appelle mal exécutés. Et donc du coup, sur du moyen long terme, ça peut détruire ton schéma neuromusculaire. Donc, c'est pour ça que je ne suis pas trop fan. Donc je préfère justement, plutôt que d'utiliser l'échec, d'utiliser un pourcentage plus faible de ton rep max et de le répéter à ce moment-là et de cumuler à ce moment-là plus de séries plutôt que d'aller à l'échec et de faire une rep de plus, une rep de plus. Mais c'est vrai que ça marche. Qu'est-ce qu'il y a?
Je suis en train de me dire qu'on a créé un monstre. Genre, il est en train de se débarrasser de son syndrome de l'imposteur et là, il débite, mon gars. Genre, mon cerveau, il est...
Je vais parler d'un petit truc.
Non, mais moi, j'ai rien à dire, là. J'écoute juste.
Donc, c'est effectivement, c'est ça le principe. C'est d'essayer d'utiliser, comme je disais, le fait de pas forcément aller à l'échec, d'utiliser un pourcentage un peu plus faible et de stimuler, d'avoir une haute fréquence de stimulation.
Okay.
Ça, c'est une première chose. Qu'est-ce qu'on pourrait avoir d'autre? T'as des idées, Nico?
Non, on est pas mal. On était déjà à la troisième ou quatrième chose, là.
C'est vrai?
Les premières choses.
D'accord. Mais ouais. Ça, c'est mon problème, ça aussi.
Non, est-ce que vous, sans en refaire pendant 10 minutes, ouais. Est-ce que vous avez autre chose d'intéressant à ajouter sur le push-up? Ouais, je sais qu'il ne faut pas dire ça. Sur le push-up ou le pull-up? Nico, je te demande à toi.
Dis-moi.
Est-ce que tu as autre chose à ajouter ou quelque chose que tu trouves intéressant à dire?
Moi, je pense qu'on a fait un bon tour.
On a fait un bon tour. Ouais, hein. Ouais. Je sais que tu as toujours des trucs à dire, Tom.
Mais dans l'ensemble, pour les push-up, pull-up, voilà, c'est...
Mais dans les grandes lignes, sur les essentiels.
Sur les essentiels, ouais.
J'ai
un peu de frustration, je pense que j'aimerais faire un deuxième podcast sur ça, avec peut-être d'autres questions que tu poserais.
Mais quoi? Parce que là, c'est
non redondant. Un peu plus technique, peut-être.
Soit un peu plus technique, soit des questions qui pourraient rebondir sur des éléments qu'on a commencé à évoquer pour tirer un petit peu plus la ficelle.
Ok. Bah les gars, n'hésitez pas à poser des questions.
Vas-y.
Mettez-vous au travail, surtout.
Ouais, mettez-vous au travail.
Achetez-vous des élastiques,
les gars. C'est parti.
Et puis c'est parti pour la road to... C'est YouTuber qui utilise ça.
Road to pull up.
Bien
sûr.
Road to pull up.
Ah si, j'ai oublié un truc.
J'aurais dû te couper le micro avant.
Non, mais c'est anecdotique. Quoique non, c'est quand même intéressant. Ne pas hésiter d'utiliser pour se lester le système d'élastique, exactement. Ouais, de créer de la résistance à l'élastique. Pour plusieurs raisons, parce que c'est un peu plus joint friendly, donc c'est un peu plus moins traumatisant pour les articulations. Ouais. Ça permet aussi d'avoir une contraction, ce qu'on appelle isocinétique, c'est-à-dire une contraction qui va augmenter de manière progressive en fonction de ton pic de force.
Ouais.
Okay, ça, c'est non négligeable. Donc, notamment lorsque tu vas vouloir essayer d'apprendre tout ce qui va être mouvement explosif comme une muscle up ou autre, ça va te permettre de continuer à accélérer le mouvement jusqu'au sommet de la traction, par exemple, et voire même plus. Et c'est des choses qu'on peut utiliser beaucoup plus souvent en termes de fréquence qu'on va pouvoir avec des tractions lestées, par exemple.
Pareil sur les push-ups, quand tu mettais un élastique genre sur un rack au plus bas, et du coup j'étais obligée de ramper sur le sol pour me mettre dessous, et ça me crée une vraie résistance au niveau de la poussée. Ok, passionnant. Merci beaucoup les gars, on va s'arrêter là, parce qu'on est vraiment à 49 minutes sur le push-up et le pull-up. C'est passionnant, mais je sais que de toute façon on a plein de choses à apprendre à chaque fois. Mais on va s'arrêter là pour aujourd'hui et on se retrouve très vite pour un nouvel épisode. Au boulot, on va voir des beaux push-ups et des belles pull-ups.
Ouais. Montrez-nous la progression que vous allez avoir.
Ouais, on va
comme un gymnaste. Pieds serrés, gainés.
Ouais, beau là.
Là-dessus,
amoureux des beaux mouvements.
Sur la technique, on est dans le détail.
Nos athlètes le savent, ça. Ils nous détestent.
Et après, dans certains contextes, juste pour finir là-dessus, les push-ups un peu moins techniques et un peu moins techniques peuvent avoir, notamment
intérêt.
En judo, en sport de combat et autres. Voilà, c'est pas grave si je suis pas méga technique. Mais nous, on aime bien quand c'est beau.
Voilà. Merci beaucoup.
Merci.
Salut.
Merci beaucoup.
Merci pour votre écoute. Si cet épisode vous a plu, n'hésitez pas à le partager et à vous abonner. Retrouvez-nous également sur Instagram @intuitivetraining.fr. Vous pouvez nous y poser toutes vos questions, nous les traiterons sur les prochains épisodes du podcast. Pour les infos sur nos offres de coaching et nos programmes, rendez-vous sur notre site internet intuitivetraining.fr. À très vite !